Devrait être un peu plus court que ceux du matin, mais ça dépendra aussi des questions. Tout d'abord, au sujet du site remu.net, qui est donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, un collectif d'auteurs qui s'est transformé en revue à partir d'un site personnel. Bon, je ne dévoile pas puisque c'est à préparer, et qui nous sera exposé par Yunsun Limet, que j'aurai beaucoup de mal à vous présenter moi-même, puisque les propositions ayant changé, la personne prévue, Ronald Klapka, est un peu souffrante, donc un transfert s'est fait, et Yunsun a vraiment gentiment proposé de venir faire cet exposé, alors que peut-être elle avait mieux à faire ailleurs. Voilà. Et ensuite, on écoutera Nathalie Jungermann nous parler de la Fondation La Poste et de l'activité sur Internet littéraire. Donc, deux entreprises qui se rapprochent de la revue, mais avec des options différentes. Voilà, donc je cède la parole peut-être maintenant.
Mais merci, voilà. Donc, comme Patrick vient de vous le dire, c'est bien Ronald Klapka qui devait être là aujourd'hui pour vous parler de l'aventure remu.net. Bon, ben, des soucis de santé le retiennent. Et, ah oui, c'est ça, c'est ouais, déjà débranché. Il
faudrait que je visse. Hein. Oui, oui. T'as pas un tournevis?
On fait ouais, plus. Je le tiens comme ça.
Ah bon, non.
Non,
ça va tenir.
Oui, donc des soucis de santé le retiennent. Et comme membre du collectif remu.net, mais de date assez récente, je suis missionnée comme régionale de l'État, puisque j'ai la chance d'habiter à 20 km de Cerisy. Bon. C'est donc dire si ma légitimité pour prendre la parole dans ce contexte aujourd'hui est un peu faible, puisque je ne suis pas membre de ce collectif de très longue date, et puis c'est vrai que je suis auteur, mais j'ai pas de page personnelle. Je ne suis pas non plus une spécialiste d'une réflexion théorique sur le phénomène littérature et internet. Donc voilà, avec toutes ces précautions, j'espère qu'on me pardonnera si certains de mes propos vont enfoncer des portes ouvertes sur les autoroutes de l'hypertexte. Bon. Alors Ronald avait pris dans son argumentaire de départ comme titre donc à son intervention remu.net littérature d'abord. Et que je reprends en entendant dans l'expression peut-être l'écho involontaire des copains d'abord et qui lie en fait cette littérature-là à une communauté d'amitié qui est je crois une des clés du fonctionnement du site. Alors comme on le sait, mais là vous allez voir tout de suite l'orientation de mes recherches par ailleurs indépendantes d'Internet, depuis donc les réflexions d'un Bataille ou d'un Blanchot ou d'un Derrida, les notions de communauté, même d'amitié, sont travaillées en leur cœur par des apories qui précisément et de façon inattendue trouvent dans Internet une sorte de preuve par les faits. C'est sous cet éclairage que j'aimerais retracer pour vous à la fois l'histoire et l'actualité du site littéraire remu.net. Alors, donc, tout d'abord, je vais vous évoquer un peu les origines de ce site. Ce sont des choses que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais enfin, je le reprends pour ceux qui découvriraient cela. Donc, premier point, donc les origines. Si avec l'ordinateur et le traitement de texte, la pratique matérielle, et pas seulement d'ailleurs, de l'écriture a fondamentalement changé, la lecture s'en est trouvée modifiée, parce que évidemment, insérée dans une machine qui en connaît virtuellement des connexions inaccessibles au cerveau humain, le texte change de nature et notre rapport à lui également. Hein, le structuralisme des années 60 qui a induit, je crois, de nouveaux modes de lecture qui continuent encore d'irriguer l'enseignement et les recherches littéraires, trouve au tournant des années 80-90, dans l'ordinateur ce fameux outil inespéré. Exemple, hein, l'isotopie, la récursivité des thèmes, leur organisation, les voilà tout à coup visibles et accessibles en quelques clics. Hein, le mot « amour » dans la Chartreuse de Parme Et bien voilà, tout à coup, toutes les occurrences et les contextes d'apparition. Et cette chronologie qui fait se suivre des nouvelles manières de lire, et puis la technique qui en exponentialise en quelque sorte les possibilités, est assez remarquable. Et je crois que c'est, si je me permets ce petit historique, ce nouveau rapport au texte et à la littérature qui est au départ même de la démarche de François Bon dans l'Internet. Sa formation scientifique, hein, il a fait des études aux arts et métiers d'ingénieur, a permis, je crois, cette curieuse alchimie d'un écrivain, grand lecteur, soumettant et ouvrant ses pratiques à de lecture et d'écriture aux nouvelles techniques. Alors, s'il paraît tout naturel d'insister sur non seulement sur l'importance de François Bon comme fondateur du site Romnet, il faut également souligner qu'il ne s'agit pas là d'un aspect anecdotique. Hein. Il a dit lui-même d'ailleurs, hein, la pratique d'Internet est liée à sa démarche d'écrivain, et entre les deux, il y a une réelle continuité. Elle existe et elle est inédite. Alors au début, il y a son travail, sa connaissance de l'œuvre de Rabelais. Je rappelle, hein, La Folie Rabelais parue chez Minuit en 1990. L'envie de mettre en ligne le texte de Rabelais numérisé. Donc François Bon avait pupitré des facsimilés des éditions originales de 1532, 1534, 1548 et 1552. Et en collaboration avec le site Athéna à Genève, il met en accès libre cette édition numérisée à l'été 1996. Alors, cette initiative sera suivie de la mise en ligne de Baudelaire, Rimbaud et Lautréamont. Première bouteille à la mer d'un Internet encore assez peu fréquenté des littéraires, ces mises en ligne sont également à l'origine de nombreux contacts et d'échanges. Comme le rapporte François Bon, là je le cite, la demande portait souvent sur les ressources littéraires quant à la littérature actuelle. Et ceux qui aujourd'hui en France la représentent en vie et en qualité, donc pour Pierre Bergougnoux, Patrick Chamoiseau, Jean Echenoz, Leslie Kaplan, Pierre Michon, Valère Novarina, Jean Rouault et bien d'autres, des aînés comme Julien Gracq, Charles Juliette, Georges Perec, Jacques Roubaud et tant d'autres, Internet était une grande boîte vide, nul site d'éditeur, nul site de bibliothèque, nul site de librairie. Donc fin de citation. Et c'est ainsi qu'à partir de cette ouverture libre et gratuite sur des textes du patrimoine littéraire français est née la nécessité de parler aussi du contemporain. François Bon a, à partir de ses demandes croissantes, créé en 1997 ses premières pages personnelles qui étaient avant tout, je le cite, un ensemble de ressources, des textes, d'études, de liens concernant les meilleurs auteurs d'aujourd'hui. Fin de citation. C'est-à-dire les grands contemporains, et les premières pages seront ainsi consacrées à Pierre Bergougnoux et Pierre Michon. Donc il apparaît ainsi assez clairement que ce qui va ensuite donner naissance au site Romnet trouve son origine à la fois dans un certain type d'accès aux œuvres classiques de la littérature française, dans un certain type de lecture, donc aussi active, hein, et qui ouvre en même temps à la littérature contemporaine par ce caractère, entre guillemets, interactif et par l'impulsion, l'intercession d'un auteur de cette même littérature contemporaine et aussi par ses amitiés personnelles. Le succès de ce site pousse François Bon, au bout de 2 ans, à quitter l'hébergement Wanadoo pour un hébergeur professionnel et à choisir un nom de domaine propre qui le distinguerait de ses pages personnelles. Alors l'histoire est à présent tombée, je crois, dans la Vulgate, enfin je la rapporte à nouveau. Invité d'honneur en mars 2000 à un colloque de littérature française à l'université de Philadelphie, François Bon entend cette phrase « La littérature française aujourd'hui, ça remue encore ». Et voilà, le nom est trouvé et remue.net par la même occasion est né, regroupant autour de François Bon, Jean-Marie Barnaud, Philippe Ramy, Ronald Klapka d'abord, comme, disons, premier noyau, Viendront ensuite assez vite Dominique Dussidour, Jean-Claude Jorgensen, Philippe de Jonker, puis Chantal Anglade, Laurent Grisel, etc. Avec ce nom, donc Remus.net, il y a aussi une association en loi de 1901 qui y voit le jour. Et donc la création de Remus.net signifie par cette association l'ouverture vers le collectif, puisque un nom viendra ensuite, comme vous le voyez là, peu après sous-titrer le site « Collectif littérature ». Alors dans le mot « remue », il y a aussi le mot « nu », et c'est vrai que depuis le site, depuis donc ces origines-là, le site a évolué, a connu pas mal de changements à la fois de personnes, de graphisme et de graphisme aussi, d'organisation en même temps, parce que si au départ l'équipe comportait un certain nombre de rédacteurs et un seul administrateur, c'est-à-dire François Bon, qui était donc en fait courroie de transmission entre les différentes personnes et puis le metteur en ligne entre guillemets des textes proposés, il était aidé en cela par Philippe de Jonker. Ce type de fonctionnement, au fur et à mesure que le site prenait de l'ampleur, éprouvait évidemment ses limites. Une journée ne compte jusqu'ici que 24 heures, hélas. Alors récemment, avec l'aide de Julien Kirsch, qui est un informaticien de son état, Philippe de Jonker et François Bon ont mis en place un nouveau système de mise en ligne et une nouvelle architecture du site, avec un graphisme aussi qui a un peu évolué, que vous voyez là. Et donc ce système, c'est le SPIP, le système de publication pour Internet, qui maintenant est en langage PHP, donc plus HTML. Ne me demandez pas d'expliquer beaucoup plus parce que je suis nulle. Mais enfin bon, je sais en gros la différence de nature de ces deux systèmes. Donc en fait, le SPIP permet à chaque rédacteur de mettre lui-même en ligne directement son propre texte. Et il y a plusieurs administrateurs qui se contentent en fait de superviser les rubriques principales. Alors, il y a aussi dans ce transfert la question des anciens dossiers auteurs du site précédent, dans l'architecture précédente, vers le nouveau site, qui est toujours en cours et qui est un gros chantier en cours. Donc voilà en gros pour l'historique des origines à nos jours. Alors aujourd'hui, le site est organisé entre d'une part la revue et d'autre part le site lui-même qui comporte différentes rubriques là que vous voyez, l'image de la semaine qui illustre la page d'accueil et puis qui est plus commentée si on entre dans la rubrique en cliquant sur la photo, la phrase de la semaine qui est en gros la résultante de ce qui se passait dans les premières années du site, c'est-à-dire une phrase qui revenait de manière récurrente dans les télégrammes ou les brèves. Ensuite, la chronique livre lu, livre à lire, qui sont donc là des critiques plus longues d'ouvrages récemment parus, mais qui ne sont pas toujours non plus liés à l'actualité, c'est un petit peu en fonction des envies des rédacteurs, le côté atelier, le dossier auteur et donc différentes chroniques qui sont pour le moment au nombre de 8. Donc je vous l'ai dit, l'image de la semaine qui est choisie et commentée par Philippe de Jonker, donc photographe, qui est un des premiers du site remus.net, qui vient d'ailleurs tout récemment de le quitter. Et qui est aussi le créateur du site Désordre, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Ensuite, on a des balades photos qui sont assurées par Dominique Hasselmann, qui est venu un peu dans le collectif au moment de la mobilisation autour de la vente Breton, si vous vous rappelez, Te Brader, non ? Il y a Catherine Pompara qui est professeure aux Beaux-Arts de Bordeaux qui tient la chronique Regarder infinitif pluriel. Une autre chronique aussi sur l'esthétique et le regard qui s'appelle Le côté visuel des choses, tenue par Sébastien Rongier qui est à terre à l'Université de Paris 1, qui a fait une thèse d'ailleurs sur la modernité ironique, une pensée critique de l'image. Et puis, du noyau de départ, on trouve les chroniques de Jean-Marie Barnaud, Philippe Ramy et Ronald Klapka, qui, tous trois, à leur manière, proposent des réflexions entre poésie, récit et philosophie. Et la singularité, en fait, de ces trois chroniques tient à leurs personnalités respectives, et qui, en même temps, bon, c'est des gens qui se connaissent de maintenant longue date, et qui donc dialoguent, échangent. Jean-Marie Barnaud, vous le connaissez sans doute en tant que poète et romancier, hein, qui a publié, bon, je cite que ses dernières publications chez Chêne Éditeur, Bleu et quoi d'autre, qui a eu le prix Georges Perros en 2001, Venant le jour, réédition de ses poèmes en 2005, à 87-90, ou encore des nouvelles chez Lamourier, Récit de la vie brève en 2004, et lui, donc, sa chronique s'appelle Déstabilisation de Monsieur Jourdain. Ronald Klapka, lui, est inspecteur d'académie. J'ai eu une longue conversation hier avec lui au téléphone, donc il m'a bien dit de préciser qu'il était aussi inspecteur pédagogique régional de l'éducation nationale. Et il est donc un des fondateurs de Remus.net, tient la chronique La poésie pour apprendre à vivre, versant, disons, poétique des chroniques. Et il a aussi, dans ce travail, disons, critique sur Internet, le soin de travailler la critique dans l'hypertexte, donc de donner non seulement son point de vue sur un ouvrage ou sur un événement, mais en même temps de toujours donner le feuilleté, disons, hypertexte de point de vue sur ce même événement ou ouvrage. Et puis, Philippe Ramy, qui est philosophe, écrivain, auteur du récent Mouvement par la fin, qui a été publié chez Chêne Éditeur aussi, qui tient donc cette chronique Une fin des certitudes, où il mêle lecture personnelle et texte de création. Alors, en dehors de ces chroniques, la rubrique Côté atelier, hein, qui est importante évidemment à la fois dans l'histoire du site et aussi dans la vie du site actuel. Cette chronique, donc Côté atelier, est nourrie pour le moment par les expériences de Dominique Ducidour à Charleville-Mézières. Dominique Ducidour est écrivain et elle a nourri par ailleurs dans le site. Elle est aussi traductrice, hein, elle a publié pas mal de traductions et de romans. Et pour le cahier de création, elle a donné pas mal de réflexions sur l'écriture et sur la question du romanesque. Chantal Anglade aussi nourrit la chronique Côté atelier, puisque elle est enseignante et elle témoigne des ateliers d'écriture qui sont menés dans son lycée, à Argenteuil, le lycée Georges Braque. Et on y trouve évidemment des comptes rendus ou des échos apportés par François Bon ou d'autres d'ateliers à travers toute la France. Alors, à travers ce passage en revue un peu fastidieux là des chroniques, j'ai quand même pu vous présenter, je crois, l'essentiel des rédacteurs et du bureau de Remus.net. Alors, les dossiers auteurs, les télégrammes, la chronique, la rubrique livres lus, livres à lire sont alimentés par ailleurs par ces mêmes personnes, auxquelles il faut ajouter Sereine Berlotier, qui est conservatrice à la Bibliothèque nationale, dont d'ailleurs le premier roman va paraître en janvier prochain, janvier 2006. On trouve aussi Miguel Auboui, qui est chercheur au CEA, physicien, et pourtant auteur d'un roman chez Autrement. Laurent Grisel, qui devait être parmi nous, mais dont là aussi des problèmes de santé l'en empêchent, qui est lui poète et créateur du site Poésie Choisie, que vous connaissez peut-être. Guénaël Boutouillet, qui s'occupe de la scène nationale de Manège à La Roche-sur-Yon. On trouve aussi Éric Hopneau, qui est enseignant à l'UFM de Paris et qui est le fondateur du site Maurice Blanchot. Enfin, il y a aussi José Morel Cinq-Mars, qui est psychologue, psychanalyste canadienne, qui a publié « Quand la pudeur prend corps » au Presse universitaire de France, qui est aussi par ailleurs responsable d'un groupe de lecture de revues de psychanalyse, hein, sur le site Édipe. On a Julien Kirsch, qui est donc l'informaticien de service, et puis moi-même, et peut-être l'un ou l'autre que j'oublie et qui ont des collaborations peut-être plus épisodiques. Alors la revue, quant à elle, est trimestrielle et elle comporte un cahier de création, un cahier de critique théorique et aussi un certain nombre de critiques et d'entretiens qui viennent alimenter les dossiers auteurs dans l'archivage. Hein. La revue fait donc à la fois, dans ce sens, un travail de découverte de jeunes auteurs qui ont parfois, par l'intermédiaire du site, trouvé un éditeur papier. Et puis, il s'ouvre aussi, évidemment, aux éditeurs, aux auteurs plus consacrés qui viennent là, disons, par amitié, par les liens que chaque membre du site peut avoir tissé de ci, de là. Si on veut présenter les choses en chiffres, on peut dire qu'en 2001, Remu.net comptait à peu près 30 000 ouvertures de pages par mois, 1400 fichiers de référence. En novembre 2003, on est passé à 30 000 ouvertures de pages par semaine cette fois. Et ces consultations se répartissent essentiellement entre la France métropolitaine pour une petite moitié et puis l'espace qu'on dit francophone, comme si la France n'était pas francophone, enfin, on ne va pas soulever ici le débat, donc Suisse, Canada, Belgique et Dom-Tom, c'est-à-dire un peu plus de la moitié, et la plupart des consultations hors France proviennent donc des sections d'études françaises d'universités étrangères. Alors aujourd'hui, on compte environ 70 000 ouvertures de pages par semaine. J'ai là un relevé récent de ces statistiques. Voilà, le voilà. Donc là, vous avez tout d'abord le nombre de visiteurs par jour sur une semaine. Donc là, ça représente une semaine. Et ensuite, là, vous avez le nombre d'ouvertures de pages par jour et sur une semaine, hein, du lundi au dimanche. Alors, je vous propose, en fait, parce que j'ai l'impression que les mots disent assez mal. Alors, j'ai reperdu la page, pardon, c'est là ? Bon ? Non. Alors là, je suis dans quoi ? Voilà. Les mots disent un peu mal, hein, enfin en tout cas de manière sans doute un peu fastidieuse, en plus c'est le début de l'après-midi, on a tendance à s'assoupir. Donc je vous propose une visite du site comme le ferait un internaute qui aborderait pour la première fois le site sans trop rien y connaître. Donc voilà une petite visite improvisée, hein. Donc, vous voyez la phrase du jour en haut à gauche, qui est donc pour cette semaine une phrase de Beckett, et qui est présentée par, comme c'est l'été, ça a aussi un fonctionnement un peu particulier, donc c'est la phrase non pas de « Ah, tout s'en va ». C'est la prise. Attends, là, j'ai bien. Bon.
Je crois que tu l'as mis en veille, je crois.
Moi, je l'ai mis en veille. Ouais. J'ai touché. Bon, on va recommencer.
C'est bizarre.
Ça m'arrive toujours qu'à moi, ça.
Ah bon ?
Ouais.
Un autre à mettre. On va changer la bête.
D'accord. Merci. Alors,
moi, ça va être derrière.
Là, c'est... Je passe ça et ça. Ah non, ça c'est l'autre.
Mais dis-moi, cette... Patrick, t'es sûr qu'il suffit de brancher?
Oui, oui. Bah, et après, il faut basculer en mode écran touche fonction.
Oui. Je ne sais pas faire. Ah bah attends, il faut jouer.
C'est bon, voilà.
Ah oui,
c'est
comme ça.
On voit l'image.
Ils veulent savoir le code là.
Bah non, on voit que des ronds. Hein,
donc... Qu'est-ce que ça passe?
Ouais, c'est bon, merci. Donc la phrase de l'été, non pas de la semaine, de Beckett. Donc la fable de toi fabulant d'un autre avec toi dans le noir, et comme quoi mieux vaut tout compte fait, peine perdue, étoile telle que toujours seule. Donc de compagnie. Ronald, voilà, le petit mot de Ronald en dessous. Et cette phrase est extraite exceptionnellement d'un commentaire que François Bon avait fait à la Villa Gilet, qui est donc repris en dessous de la phrase du jour, enfin de l'été. Donc c'est un petit peu traitement spécial parce que ça n'arrive jamais que la phrase du jour soit à ce point commentée. Je ne sais pas si on lit bien, on ne lit rien du tout en fait.
Affichage.
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 En haut. Oui. Et je mets
taille
du texte et je vais plus grande. Là, c'est mieux.
Encore une fois.
Encore une fois. Oui. Ah, ça commence. Ça. D'accord.
Les pages commencent pas à grandir. Hein. C'est programmé pour.
Ça arrive.
Donc, c'est un peu long. C'est si près. Donc, je défile le texte. La lecture est un peu longue. Et vous voyez donc en dessous de cette reprise du texte de François Bon, on a un certain nombre de liens. Donc, faisons le navigateur. Voilà. Donc là, on a un lien à un dossier Samuel Beckett sur la librairie initiale. Autre lien ici, je ne construis que pierre vive. Et là, on retombe sur le site personnel de François Bon et les liens à Rabelais. Ce qui va nous permettre d'aller sur... par exemple, l'édition de 1532 de Pantagruel. Et donc, nous voici sur Athéna. Avec la table des matières. Et par curiosité, on va voir le prologue de l'auteur. Et on a donc ce fameux texte, très illustre et très chevalu, champion, gentilhomme et autres, qui volontiers vous a donné à toute gentillesse et honnêteté. Vous avez naguère vu, lu, su et les grandes et inestimables chroniques de l'énorme géant Gargantua, et comme vrai fidèle, les avez crues tout ainsi que texte de Bible ou du Saint-Évangile, et y avez maintes fois passé votre temps, etc. Là, évidemment, on ne va pas pouvoir tout lire. Alors, je retourne ici à la phrase du jour et revenant à l'accueil, je clique par exemple sur l'image de la semaine. qui est une photo donc de Walker Evans, avec le commentaire donc de Philippe de Jonker. L'ambition principale des photographies de Walker Evans fut de s'absenter de ces images, ne pas les marquer de son sceau, de s'effacer pour rendre justice des voix à ces sujets. En cela, il ne serait pas faux de penser que l'œuvre entière de Walker Evans est un échec, puisque jusque dans ses dernières images, le photographe n'est jamais entièrement traversé par ce qu'il photographie. Il n'est pas impossible que Walker Evans ait pu avoir un comparable sentiment d'insatisfaction de son travail, ce qui expliquerait en partie ce corpus pléthorique qui serait alors celui d'un homme en quête d'un idéal toujours plus fuyant. Mais il n'est pas évidemment question ici de soutenir par ineptie. Le travail de Walker Evans est dans la droite lignée de celui d'Eugène Hadjet, et à bien des points de vue, l'œuvre de Walker Evans prépare celle de Robert Frank. On est ici davantage dans le secret des dieux de la photographie. Et donc, par curiosité, on va cliquer sur Eugène Hadjet. Et voici donc une autre image de la semaine, des semaines précédentes, qui sont les feuilles de vigne vierge d'Eugène Hadjet. Que regarde-t-on lorsqu'on regarde une photographie d'une plante grimpante faite par Hadjet au début du XXe siècle? Une photographie d'une plante grimpante, oui, c'est vrai, c'est un peu ce que l'on regarde, mais comme il est difficile de penser à autre chose qu'au temps qui passe et qui a fait de nombreuses fois fleurir et se faner cette vigne vierge, tant de saisons nous séparent d'elle, et pourtant le feuillage est d'une étrange immédiateté. Une photographie de feuillage n'est jamais seulement une photographie de feuillage. Et personnellement, je trouve effectivement cette photo assez émouvante. Alors, puisqu'on est dans l'image, dans les chroniques, il y a celle donc de... Pardon, je suis un peu loin, je ne parle pas très fort. Celle de Catherine Pompara, qui s'appelle donc « Regarder infinitif pluriel ». Qui s'ouvre ainsi... Tiens, le lien est... Bon. Voilà, vous avez le terme atelier, hasard. Si on va dans la dernière livraison donc de juillet 2005, vous avez toute une réflexion autour de la chevelure, à partir donc d'une illustrée par une production de Corot. Travaille donc sur le travail de, qui donne une réflexion sur le travail de Pierre Barès, photographie des cheveux. Donc vous allez voir plus bas, hein, il y a ces photographies qui apparaissent. Il y en a d'autres là. Encore ça. Donc si je remonte plus loin, plus haut, vous voyez une phrase de Mallarmé qui est mise un peu en exergue. Et la chevelure. Alors, voilà, vous avez le poème de Mallarmé qui se trouve sur le Poésie Webnet, là, qui est donc « La chevelure vole d'une flamme à l'extrême occident ». Je vous le laisse lire, c'est pas très long celui-là. Voilà. Si maintenant je retourne, vous voyez que donc dans le bandeau de gauche, on a toujours la possibilité de retourner aux chroniques ou aux autres rubriques. Je suis donc un internaute qui découvre le site. J'ai entendu vaguement parler du site, donc je sais qu'il y a des ateliers d'écriture. Donc je vais, par curiosité, voir le côté atelier. Et voici le côté atelier. La dernière contribution, c'est Gwenaël Boutouillet qui l'a faite au manège à La Roche-sur-Yon, qui recevait Patrick Châtelier, un atelier d'écriture à La Roche-sur-Yon. Allons-y. Et voilà donc le texte de Patrick Châtelier sur... Donc un texte plutôt qu'on rangerait dans les créations. Petit récit sur... sur cette expérience d'écrivain allant à travers la France animer des ateliers. Je laisse lire peut-être un paragraphe ou l'autre. Alors ce texte a cette particularité, je crois qu'il se réponde, mais là... Si on va dans Déplacement croisé, on trouve le texte de Gwenaël qui répond en écho en fait au texte de Châtelier, puisqu'il raconte comment il va chercher au train sur le quai de la gare l'auteur en question. Donc c'est aussi, on peut dire, une sorte de texte de création. Voilà. Si on veut en savoir d'ailleurs un peu plus, eh bien, sur le manège, on tombe évidemment sur le site de la scène nationale, le manège à La Roche-sur-Yon. De même, à partir de ce même endroit du site, je retourne là, je ne sais pas comment. Non, c'est celui-là, pardon. Dans celui de Gwenaël, on tombe sur.
Un peu plus fort, s'il vous plaît.
Oui, pardon, je vais peut-être rapprocher le micro, voilà. Là, vous m'entendez mieux ?
Non.
Non ? Non, vous ne m'entendez pas mieux ? Si ? Ah ! Donc je vais essayer de parler plus fort. Pardonnez-moi, je suis pas, j'ai pas un thorax très développé. Alors, vous avez donc des photos hein, de cette intervention et vous avez un lien, par exemple, à ce qui se fait dans un lycée de la région. Autour de l'atelier d'un atelier d'écriture en classe de lycée, et vous avez donc la présentation des lycéens qui ils sont, ce qu'ils font. Voilà. Je voulais aussi vous le montrer pour montrer les liens un peu moins, disons, professionnels, on va dire, plus amateurs, mais qui sont, font partie aussi de la chose, me semble-t-il. Ensuite, si l'on revient à l'accueil, eh bien, en dehors donc du bandeau de gauche, vous avez évidemment la revue, donc on va y accéder. La revue de l'été, donc, puisque c'est trimestriel, où l'on trouve... Le cahier de création. Dans le cahier de création, vous avez vraiment pas mal de textes pour cet été. Et vous avez aussi la revue du Parlement international des écrivains, qui est pour le moment donc hébergée par Romu.net en attendant que les choses se refassent de leur côté. Donc, allons-y. dans cette rubrique auto-da-fé, vous avez des textes essentiellement ou des entretiens d'écrivains qui sont soutenus par le Parlement international des écrivains. Voici un texte de création, donc un inédit, je crois d'ailleurs, de Svetlana Alexeyevitch, qui est un long texte que je... Voilà. Donc on voit qu'on... Et Mallarmé, Hasard, qui revient. 5 minutes, d'accord. Donc je finis là, peut-être un peu abruptement la visite, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on commence... Donc vous voyez là, ici, le lien. Pour connaître un peu mieux Svetlana Alexeyevitch, vous pouvez aller sur le site Théâtre Contemporain, qui vous présente l'auteur. Hein. Voilà. Bon, je voulais vous faire montrer le lien avec Vacarme, mais peut-être je ne vais pas avoir le temps. Bon, tant pis. C'est pas grave. On va terminer la visite sur Svetlana Alexeyevitch. Je vous invite à aller lire en ligne. Bon. Donc c'est une visite complètement improvisée, qui n'est absolument pas orientée, qui est telle que n'importe quel internaute de hasard pourrait faire en abordant sur les rivages de Remus.net. Et je pense que ces quelques minutes sont assez représentatives à la fois de la richesse du site et de sa singularité, qui, je crois, combine à la fois une réelle exigence, à la fois dans l'écriture et dans les choix, qui n'empêche pas non plus une sorte de légèreté, me semble-t-il, et d'ouverture vers des choses pas... Hein, si on se souvient, par exemple, du site des lycéens, là, du Roc à La Roche-sur-Yon, donc qui est aussi pas... qui ouvre sur des choses moins formalisées. Donc on voit aussi qu'il s'agit essentiellement d'un site carrefour, puisqu'à toutes les rubriques, il y a un nombre de liens assez importants qui permettent une réelle, disons, navigation à partir d'un point vers tout l'internet littéraire, qui est aussi donc un site ressource, puisque là, ben, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer, mais les dossiers auteurs, c'est une grosse partie du site remus.net. Donc carrefour et ressources qu'on retrouve d'ailleurs à l'intérieur même de l'organisation des dossiers auteurs. Je peux simplement vous dire, pour exemple, je vais reprendre ici ce que Dominique Dussidour avait montré lors d'une intervention au Centre Beaubourg autour de Bernard Noël. Si vous prenez le dossier auteur Bernard Noël, vous voyez qu'il contient un texte de Bernard Noël inédit sur Antonin Artaud, qui apparaît ensuite dans Fusée, qui est reproduit d'ailleurs ensuite avec l'autorisation de la revue, une étude de François Bon sur Bernard Noël qui s'appelle Homme de parole. Vous avez aussi, et qui avait en fait été écrit pour le réseau des libraires L'Œil de la Lettre. Et il y a un entretien de Bernard Noël intitulé « L'écriture comme résistance » avec Dominique Sampiero, qui a paru dans le magazine, qui avait originellement paru dans le magazine Le Matricule des Anges. On trouve L'outrage aux mots, un autre texte de Bernard Noël à propos de la censure dont il avait été l'objet en 1969 et qui a paru en postface de son ouvrage Le Château de Seine, une bibliographie de Bernard Noël aux éditions POL, et à chaque fois donc le dossier est parcouru de liens. Et chacun de ces sites permettent de renvoyer à d'autres textes. Par exemple, le texte de Bernard Noël sur Antonin Artaud permet évidemment d'accéder au dossier Antonin Artaud dans remus.net. L'outrage aux mots permet d'accéder au dossier fiction et censure, qui était un ensemble de contributions réunies en septembre 2002, qui concernait autre chose, une tentative de censure d'un roman de Leslie Kaplan. et que Leslie Kaplan avait écrit à propos. Non, c'était un texte de Leslie Kaplan, pardon, qu'elle avait écrit donc à propos d'un collégien québécois qui avait été condamné en février 2001 pour des écrits qui avait appartenu à son journal intime. Donc on voit dans l'ensemble des liens autour d'un auteur, exemple, comme Bernard Noël, sorte d'étoilement qui va et qui vient à la fois des auteurs, des revues, des libraires et des éditeurs. Le principe, je pense que la visite l'a montré aussi, est donc fondamentalement analogique et pas alphabétique, comme on peut voir par exemple dans d'autres sites. Donc pour terminer très vite, après cette présentation un peu factuelle du site, j'aimerais revenir sur la question que j'avais soulevée très brièvement au début et qui concerne peut-être davantage la valeur du site, ce à quoi d'ailleurs Ronald tenait aussi à ce qu'il en soit question. En quoi ce site est représentatif d'une certaine idée de la littérature aujourd'hui telle qu'elle se fait, ou plus précisément en quoi la littérature telle qu'elle se vit dans un site comme Renu.net est, ma foi, représentative d'une certaine idée de la communauté littéraire ou de l'unité littéraire, et en quoi ce site a une place réelle dans l'histoire littéraire qui est en train de se faire, pour reprendre le terme que Ronald Klapka avait utilisé pour présenter son intervention. Dire en tout cas pour le moins qu'il y a un réseau très vivant dans lequel ce site existe, une sorte de capillarité naturelle qui vient à la fois de la personnalité des fondateurs et des participants de ce site, capillarité vers la littérature vivante dont il se nourrit, le site, et qu'il nourrit aussi, on pourrait. Pour simple exemple, citer ici tout l'engouement qu'il y a eu autour de la mobilisation, autour de la vente breton. Carrefour, en fait, qu'a été ce site à ce moment-là, dans cette triste et symptomatique affaire. On pourrait citer, par exemple, aussi la mise en ligne d'un texte d'Assia Djebar, qui s'appelle « Idiome de l'exil », langue de l'irréductibilité, qui était un texte qu'elle avait prononcé à la réception à Francfort de son prix de la paix en 2000 et qui a été ensuite hébergé dans le site. Cela bien avant qu'elle entre d'ailleurs à l'Académie française, ou encore la présence d'un texte inédit de Pierre Bourdieu qui a été mis en ligne au moment de son décès, etc. Donc, à la fois, disons, capillarité à travers les événements et ce qui fait la littérature contemporaine et la réflexion plus générale aujourd'hui, et petit à petit, à travers cette situation aussi, Ronald le redisait hier encore, une sorte petit à petit d'importance institutionnelle qui est sensible à travers le nombre de contacts et de courriers que peuvent recevoir les uns et les autres de la part d'éditeurs, de la part de libraires, etc. La présentation que j'ai faite d'un des principaux rédacteurs, je crois, permet de constater que les occupations de chacun sont assez diverses, tout comme leur origine géographique. On se répartit entre la Roche-sur-Yon, la Normandie pour moi, Grenoble, Mougins, Reims, la région parisienne. Et si on peut voir se dégager quand même un petit groupe d'enseignants ou apparentés, ainsi qu'un certain nombre d'écrivains, d'ailleurs plus ou moins confirmés, on trouve aussi des physiciens, des anciens employés de France Télécom, des psychanalystes, des informaticiens, enfin une sorte de liste un peu à la Prévert. Et qu'est-ce qui peut faire de cet ensemble un peu hétéroclite un collectif ? Bah, pas grand-chose, on serait tenté de dire au départ. C'est une sorte d'assemblée de hasard. Et l'importance du hasard dans le rassemblement de toutes ces personnes qui font le site renu.net, je voudrais ici peut-être la placer sous l'évocation de propos de Blanchot dans La communauté inavouable, hein, lorsqu'il évoque ce hasard et cette rencontre dans le cadre de la communauté littéraire. Je le cite, hein, « Communauté idéale de la communication littéraire, les circonstances y aident, importance de l'aléa, du hasard, du caprice historique et de la rencontre, les surréalistes, André Breton avant tous les autres, avaient pressenti et même théorisé prématurément. On pouvait à la rigueur réunir autour d'une table les quelques témoins lecteurs qui n'avaient pas tous conscience de l'importance de l'événement fragile qui les réunissait. Quelque chose avait eu lieu qui permettait pour quelques instants, à travers les malentendus propres aux existences singulières, de reconnaître la possibilité d'une communauté préalablement établie en même temps que déjà posthume. Rien n'en subsisterait. Cela serrait le cœur, c'était exaltant aussi, comme l'épreuve même de l'effacement qu'exige l'écriture. Je crois que Blanchot dit là, sans trop le savoir, le hasard, la fragilité même des personnes qui se réunissent autour d'une table de lecture ou autour de la littérature. Et d'autant plus, je crois, quand il s'agit du médium que constitue Internet. Rien n'en subsisterait peut-être. On pourrait d'ailleurs, je crois, pour chaque membre raconter l'histoire de ce hasard. Là, je ne peux pas le faire ici, ils devraient le faire eux-mêmes. Pour ma part, moi j'ai rencontré vraiment par hasard François Bon lorsque je travaillais chez Fayard, et j'ai découvert son site en fait par la même occasion. Et puis c'est lorsque j'ai quitté cette maison que j'ai eu envie d'y participer activement. Bon, bah, j'aurais travaillé dans une autre maison ou à quelques années d'intervalle, je ne serais sans doute pas ici pour vous parler de remue.net. Alors cet aspect aléatoire me semble important à souligner, et il est plus important, je crois, que dans le cadre des revues littéraires traditionnelles papier, parce que sans doute la localisation géographique n'a pas de pertinence pour la réunion entre guillemets. On peut être ensemble tout en étant à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, et bon, c'est un truisme sans doute de le dire ici, mais enfin, Internet permet justement cette curieuse communauté d'absence dont parlait Bataille bien avant que n'existent les ordinateurs en réseau, qu'on se réunisse ainsi pour partager des timbres ou des jeux vidéo, soit, mais lorsqu'il s'agit de littérature et de littérature d'abord, ce que signifie la littérature elle-même est engagé dans cette espèce de rapport sans rapport, ce sont les termes là que je reprends comme définition paradoxale de l'amitié qu'a donnée Blanchot dans le même texte que je lisais de la communauté inavouable. Donc hasard de la rencontre, absence qui fait communauté, rapport sans rapport, bon, aller construire avec ça quelque chose qui ne tienne la route, et pourtant cela se produit avec, bon, les difficultés et les malentendus propres aux existences singulières, mais cela se fait. Et si on pouvait dire auparavant que remue.net c'était François Bon, on le dit encore, mais peut-être un peu moins, mais c'était vrai dans la mesure où, étant l'unique administrateur du site, il dessinait de facto lui-même une ligne éditoriale, le passage à SPIP, ben, pour reposer à nouveau la question de la cohérence ou de la ligne éditoriale de remue.net. Et à cette question, en fait, aucune réponse n'a été jusqu'ici donnée clairement, et il semble que même cette absence de réponse est un peu motrice dans le fonctionnement de remue.net. En relisant un précédent compte-rendu de l'Assemblée Générale, je retrouve des propos maintenant anciens de François Bon, où je le cite, hein, « L'équilibre entre les différents composants du site est né non d'un plan préétabli, mais un peu au hasard des nécessités, si j'ose dire. Les composantes s'alimentent les unes les autres, forment des richesses diverses qui participent grandement à l'intérêt du site. Pourrons-nous les tenir? On verra bien. » C'est aussi, me semble-t-il, dans ce « on verra bien » que se trouve l'intérêt, depuis sa naissance, de l'expérience remue.net. Là, je termine la citation. Donc ce « on verra bien », il y a là-dedans une sorte de confiance dans l'avenir et dans ce que l'avenir promet dans les gens. Donc il y a dans cette espèce de non-plan préétabli quelque chose qui fait, je crois, un peu aussi la vitalité de remue.net. Et quant à la question de la double nature du site, qui est donc à la fois lieu de création, hein, cahier de création, et puis lieu de ressources, de critiques et d'informations littéraires, à la naissance même de la revue, lors de la première assemblée générale, Patrick Cahuzac de Inventaire Invention posait déjà cette question-là, je le cite, hein. Il se demandait si Remus.net n'y gagnerait pas en se recentrant sur un seul de ces deux pôles, à savoir en se limitant soit à proposer des ressources littéraires devenues maintenant considérables, soit à promouvoir des inédits à l'aide d'une revue enrichie par des moyens financiers à la hauteur de la tâche, moyens financiers accrus par l'apport de subventions qui permettraient de rémunérer les auteurs et d'engager un graphiste pour refonder la présentation du site. Et dans sa réponse, François Bon, en fait, défend l'idée du site qui, justement, est de s'inscrire dans la tension provoquée par cette double identité. Remus.net assume son rôle d'interface d'alerte en fixant un point de convergence apparemment incompatible, mais qui, lorsqu'on prend le risque de leur rencontre, fonde une communauté des plus ouvertes et des plus viables, car reposant sur le bénévolat et l'enthousiasme celle et de ceux qui contribuent. Fin de citation. Et l'attention, je terminerai là-dessus, provoquée par cette double identité, renvoie de fait à ses origines, la mise en ligne du texte de Rabelais et d'autres, et ce qu'elle signifie, une nouvelle approche de l'écriture qui est intimement ici liée à la lecture. C'est dans ce non-choix revendiqué comme tel au départ que se situe sans doute une part de l'originalité de Remus.net qui le lie à la littérature contemporaine telle qu'elle s'écrit aujourd'hui. On ne lit, on ne donne à lire que par l'écriture, et l'écriture vient d'une certaine expérience de la lecture, bon, atelier d'écriture, cahier de création, part critique et ressources, réflexion théorique. Tout cela entre en résonance et tout cela est en fait consubstantiel, et là-dedans, en fait, rien de particulièrement prémédité dans cette architecture. Ben, cela vient, je crois, tout naturellement et tout simplement, et cela se comprend en fait à travers le rapport de François Bon à l'écriture et à la lecture. Donc, redire ici évidemment l'importance de sa réflexion à lui. Et pour finir sur lui d'ailleurs, il suffit peut-être de rappeler que la folie Rabelais s'inscrit dans la lignée par exemple d'un Lautréamont et Sade de Blanchot, où il s'agit précisément de faire cette expérience singulière de la lecture, une sorte de traversée du texte qui pose question quant à notre rapport à la langue. Et dans l'autre sens, les ateliers d'écriture sont aussi une façon d'introduire à la lecture. Là je cite son livre « Tous les mots sont adultes ». Il s'agit toujours à terme de susciter l'envie du livre, l'expérience du lecteur comme aventure solitaire et exigeante. Je crois qu'en se promenant dans le site, ces réflexions qui semblent peut-être un peu théoriques prennent vraiment corps dans tel lien inattendu ou dans tel extrait d'œuvre qui est donné à lire. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette présentation, et je m'en excuse, un peu chaotique et partielle, j'espère avoir pu mettre en évidence son lien vivant à la littérature d'aujourd'hui, et que ce site, Remus.net, est contemporain dans la réflexion qu'il propose sur l'image, sur aux différents niveaux de son architecture, à travers aussi des choix dans la production littéraire d'aujourd'hui, souvent exigeants, pas forcément consensuels, et puis aussi par le ton et l'état d'esprit qui s'en dégage. Je crois qu'il témoigne de ce qu'est aujourd'hui, avec ses difficultés, une communauté qui se forme autour de la littérature française, et qui lit, qui réfléchit, qui a aussi le souci du monde, et qui prend d'ailleurs le risque de la dispersion d'une certaine manière, mais je crois aussi en cela très contemporain.
Je te donne quelques minutes pour des questions. S'il y en a. Il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà
Est-ce que les démolitions express ont été déménagées?
Non, mais elles vivotent. Elles sont un peu en stand-by. Il y a eu peu de choses.
Il peut aller dans l'ancien site.
Pardon ?
Il peut aller dans l'ancien site.
Non, elles sont encore. Enfin, il y en a qui sont accessibles. Hein, si vous voyez là, dans les chroniques, il y a toujours démolition express.
J'ai une collègue qui m'a dit récemment. Quand j'ai un coup de déprime, je vais faire un petit tour dans Remue-Ponette, ça me remonte le moral.
C'est là. Ici.
Elles y sont toutes ?
Elles n'y sont pas toutes, non. Il y a les dernières, mais...
Ah bon, non, il n'y en a plus que 4.
Ouais.
Laquelle tu préfères ?
N'importe. Ah, Habitat pour les SDF, c'était assez fort, ça, l'image. Hein.
Les autres n'ont pas été ramenés de l'ancien
site. Non, non.
On peut y aller dans l'ancien.
Mais on peut y aller parce que il y a donc, si vous regardez à gauche, il y a l'ancien site, hein, le remue.net ici, là, l'ancien site. Et donc si on y clique, voilà. Et donc ça, c'est le grand chantier, c'est de, disons que ce qui a été décidé, c'est de ne rapatrier que les dossiers auteurs, parce que tout ce qui est effectivement démolition express. Moi, mon premier texte était dans démolition express. J'étais intervenue. Voilà. Oui. C'est vrai que j'en parlais hier avec Ronald. Je disais, qu'est-ce que je dis de démolition express ? Oh, c'est vrai que c'est un peu enveilleuse pour le moment, mais c'est aussi peut-être la seule rubrique qui est vraiment ouverte plus largement aux interventions extérieures. Si vous avez un coup d'humeur, vous l'envoyez, et puis... enfin, moi, c'est comme ça, j'ai eu un coup d'humeur sur une émission de télé que j'ai envoyée à François Bon et qui l'a mis dans la rubrique.
Oui, ce n'est pas tout à fait une question, mais un témoignage.
Oui.
Il s'est trouvé qu'au même moment où François Bon commençait son Rabelais, moi aussi, je faisais un même Rabelais avec Marius de Monet qui dirige le Centre de la Renaissance à Tours. Et François Bon a pris contact avec moi. Et là, je suis le témoin de son ouverture d'esprit. Nous avons continué l'un et l'autre à faire la même entreprise sur Rabelais, et c'est maintenu encore dans les deux cas.
Mm-hmm.
Et la réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un témoignage de ce qui devrait toujours se passer. Au lieu qu'il y ait concurrence,
mm-hmm.
sur Internet, il y a tellement de place qu'il y a la place pour tout le monde. Et la deuxième réflexion que je vois, c'est comme pour la revue Europe qui vient de Romain Rolland et de son équipe. Eh bien, là aussi, c'est une revue qui est autour d'un homme et qui est un peu l'image d'un homme.
Mmh. Oui, c'est vrai que la personnalité, ce que fait l'activité, parce qu'il fait une quantité de choses assez phénoménales, de François Bon, à la fois, j'ai essayé de le montrer du strict point de vue. Bon, moi, je suis plutôt... je suis plutôt dans la recherche théorique en littérature, donc c'est vrai que même du strict point de vue de son œuvre et de l'approche théorique hein, de l'écrivain, ça irrigue complètement les options même presque pratiques qui se font sur le site. Hein. Donc personnalité à la fois du point de vue strictement littéraire et théorique, et puis aussi personnalité d'ouverture et de quelqu'un de bien, quoi.
De bon.
Oui, il porte bien son nom.
Henri, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, moi je voulais poser une question sur la nature de la création littéraire. Il y a, comme dans toute revue,
mm-hmm.
Est-ce qu'il y a une création littéraire modifiée par le support ? Parce que je vous ai entendu, quand j'étais, pour ce que j'ai entendu, beaucoup de choses, par exemple de François Bon, et c'était du recyclage.
Mm-hmm.
C'est des choses qui ont été écrites pour un support donné, et puis le support étant transitoire, on le rapatrie sur le site qui, lui, serait un peu plus durable.
Mmh.
Mais pour la partie création, proprement dit, y a-t-il, je ne sais pas, une interaction avec l'idée que le support n'est pas le support papier ?
C'est difficile à dire parce que en même temps, les textes, si on y va, les textes qui sont proposés, alors je vais retourner peut-être dans la.
J'ai une présentation qui ressemblait beaucoup à une présentation papier, si ce n'est que ça se déroulait.
Oui, voilà. Non, il y a. Là, il n'y a pas vraiment de.
Les auteurs.
Non, il y a que, je dirais peut-être dans le collectif, il y a que Laurent Grisel qui est un peu, mais il est là, c'est pas là, qui est peut-être un petit peu plus motivé et en alerte sur ces choses-là, mais du côté poésie. Pas tellement du côté récit ou prose, disons, pour dire les choses un peu bêtement. De ce point de vue-là, non. Mais pour la poésie, peut-être un peu plus, oui. Parce que, effectivement. Je sais pas si on peut y aller, mais son site là, Poésie choisie, joue un peu plus sur le rapport hypertexte, enfin possible dans la création poétique. Quoi. Il a une poésie un peu. Lui-même écrit des choses un peu influencées par la rupture peut-être et la relance des termes. Mais pour ce qui est des récits ou des nouvelles, non. Pas le sentiment, moi, que ça a une influence. Mon expérience à moi, c'est-à-dire.
De créatrice. C'est le support, c'est indifférent, c'est zéro, c'est neutre, c'est transparent, on va dire.
La forme. Je crois que la forme courte est quand même mieux. Dans un site à lire sur un écran que d'ailleurs vous avez bien vu le texte de Svetlana Alexeyevitch là, que j'ai montré, il est assez long et on voit bien que c'est pas le même genre de rapport là, il faut dérouler, ça a peut-être un côté plus laborieux, mais en tout cas il me semble que moi j'ai donné très peu de choses sur les sites, mais il se trouve que j'en ai fait l'expérience il y a pas longtemps sur un autre site de création. J'ai donné un texte, et comme je savais que c'était sur un site internet, je ne l'ai pas fait très long, presque naturellement, je n'ai pas écrit quelque chose de très long, parce qu'en quelques clics, effectivement, le texte est passé en revue, mais bon, ça c'est purement personnel, ça n'engage que moi. Là.
Vous avez utilisé la folie Rabelais pour convaincre Serkini de ne pas toucher à l'orthographe française. Il y a des très beaux arguments.
Oui, oui.
Vous avez dit que vous m'avez enthousiasmé la folie Rabelais.
C'est un beau texte. Hein.
Constance.
Oui, je voulais répondre à vous hier à propos du support qui changeait l'œuvre littéraire. Henri, je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, je prête l'oreille. J'ai tendu mon oreille au maximum.
Je suis en train de travailler à. C'est pas encore en ligne, mais encore à l'état de projet, à une chronique des œuvres romanesques sur le net pour connues, connaître et éventuellement à des mises en ligne des œuvres courtes. Ça rejoint à vos questions dans le sens où le support était censé changer la mise en page.
Y a-t-il, du point de vue du créateur,
une interaction entre tous. Ce n'est plus un support papier qui appelle une œuvre linéaire et ordonnée selon des chapitres, des parties, etc. Donc c'est un projet
qui est une réponse à faire à.
Donc, Claude.
Je ne pourrais pas aller dans le service, puisque François me laisse jeter un œil dans l'atelier, dans le tumulte, dans son œuvre.
Disons l'exemple de François Bon qui est quand même extrêmement impliqué dans Internet. D'une part, il faut rappeler qu'il continue à publier de manière très classique des livres papier et que je ne suis pas sûre que ces livres papier-là... Il faudrait voir, mais ce n'est pas évident que son expérience sur Internet rejaillisse sur les livres papier. Mais c'est vrai que lui-même, maintenant qu'il s'est un petit peu... Il n'est plus président de l'association Remus.net, c'est Ronald Klapka qui a pris la succession l'année dernière. il y a un petit mouvement, parce qu'il n'a pas le temps, et que, voilà, pas de désengagement, mais enfin, il s'est un petit peu lancé dans d'autres aventures personnelles qui sont donc Tumulte, et encore tout récemment, un autre site là, qui vient d'expérimenter, et où là, c'est l'écrivain, mais qui expérimente, pas tellement peut-être l'œuvre littéraire, mais l'œuvre, le fait de faire un site avec son architecture, son organisation propre. Alors à ce moment-là, on pourra peut-être déplacer la notion d'œuvre, disons littéraire, vers une œuvre d'un autre type qui ne serait pas de la littérature au sens classique du terme, mais qui serait l'architecture même d'un site, le jeu avec l'image, le son, les liens hypertextes, etc., et qui sont autre chose, et que François fait aussi, puisqu'il a son site personnel qui est peut-être moins travaillé, mais il y a Tumulte qui est en train d'être fait, un peu à l'image peut-être de ce que fait Philippe de Jonquière avec Désordre.
Il participe à la liste B.
Michel. Michel, une question.
Moi, j'avais envie de poser la question, et le retour avec nous d'éditeur Gand me pousse encore plus à la poser. Quelle est la différence entre Remu.net ou un site de ce genre-là et Cerisy? Parce qu'au fond, voilà deux lieux qui accueillent des intellectuels, qui sont supportés par une association, qui diffusent leurs œuvres, qui leur permettent de discuter ensemble. Donc, quelle est la différence entre ces deux lieux?
Aïe. Ça, c'est une question basse quand même pour finir. Hein.
Le maître d'Arbégène.
Oui, bien, le château, l'arbre.
C'est l'épreuve du réel, hein, je crois.
Les arbres sont des vrais arbres ici, puis dans Internet, ce sont des arbres, des arborescences.
Est-ce que ça change quelque chose?
Bien.
Est-ce que ça change la nature des relations, la nature
de complètement,
l'éducation, hein. Et la nature de la production dans les deux cas?
Complètement, je crois. C'est ce que j'ai peut-être maladroitement tenté de dire, quoi. C'est que effectivement, quand on n'est pas obligé on se voit quoi une fois ou deux par an. C'est vrai que là récemment, on s'est vu à l'occasion du marché de la poésie. C'est vrai que voilà, chacun a de son côté et puis on échange via les mails et via le site, mais il n'y a pas la présence, disons. On n'est pas là, alors qu'ici on est dans la présence.
Il y a des charges immatérielles, puis il y a besoin d'échanges.
Voilà, c'est ça. Remunérer, mais sur les idées, il n'est pas dépendant de remunérer.
Alors, comme je vois que ça devient une conversation générale, on va peut-être s'arrêter, faire 10 minutes de pause, et puis on revient à 4h05.